Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à partir de la première lecture de dimanche prochain, tirée du livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, les versets 25 à 28. Ézéchiel est l'un des prophètes de l'exil, cela signifie qu'il a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, après que les Babyloniens, en 587, ont déporté une bonne partie du peuple à Babylone. L'intervention dont nous lisons un extrait aujourd'hui marque une étape nouvelle dans la pédagogie de Dieu vis-à-vis de son peuple. Une étape nouvelle dans la pédagogie du jugement et du salut. Vous vous souvenez peut-être de ce que l'on avait entendu dans le livre de l'Exode, après le péché du veau d'or, après cette première rupture de l'Alliance, quand les peuples hébreux dans le désert avaient construit le veau d'or. Le veau d'or avait été détruit et Dieu avait manifesté sa miséricorde. On était au livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 6 et 7, je vous les rappelle. Le Seigneur passa devant Moïse et cria, « le Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Fin de la citation. Cette exclamation voulait manifester à la fois que Dieu était miséricordieux, il pardonnait la faute, et en même temps que Dieu n'était ni indifférent ni complice du mal. Et c'était ça que signifiait le fait que on châtiait les fautes des pères sur les enfants, les petits-enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération. En faisant d'ailleurs, en mettant en scène une démesure, c'est-à-dire on demande des comptes jusqu'à la troisième, quatrième génération, mais on fait grâce à des milliers de générations. On manifestait que la miséricorde de Dieu était infiniment plus profonde que sa demande de jugement. L'objectif à ce moment-là était que l'on se souvienne que Dieu n'était pas indifférent au mal, que Dieu n'était pas complice du mal, qu'il faisait miséricorde abondamment, mais cette miséricorde n'était pas un aveuglement au mal. Voilà ce que le peuple devait comprendre, voilà ce que le peuple devait digérer, on pourrait dire, dans cette première étape de la pédagogie de Dieu avec son peuple. L'intervention d'Ézéchiel que nous entendons aujourd'hui va affiner ce rapport à la responsabilité personnelle. Qui va porter le poids de la faute. Mais écoutons maintenant le texte. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Fin de la lecture. Notre texte est un développement de la remise en cause faite par Ézéchiel au verset 2 de ce même chapitre 18, la remise en cause d'un proverbe qui existait en Israël. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Ce qui voulait dire, les pères ont commis des péchés et ce sont les fils qui en portent les conséquences. Or, ici, Ézéchiel rapporte que Dieu fera porter la responsabilité sur ceux-là même qui ont commis les actes. Et donc, il ne considérera pas les fils coupables parce que les pères ont péché, ou il ne considérera pas les pères coupables parce que les fils ont péché. Chacun n'aura à répondre que de sa faute personnelle, que de sa responsabilité personnelle. Pour prendre un exemple, ce n'est pas parce que le père a été un voleur qu'on dira au fils, tu dois répondre des crimes de ton père. En tant que son fils, tu es toi aussi le voleur, tu portes toi aussi la responsabilité du vol. Dieu affirme qu'il ne juge pas ainsi. Mais notre texte apporte une précision sur le salut, sur la disposition au salut, sur qui peut recevoir le salut, dans quelles conditions on reçoit le salut de Dieu. Le salut se reçoit selon la disposition du cœur de l'homme. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Au contraire, si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, il mourra à cause de son mal. Il est manifesté ici que c'est la disposition du cœur qui est centrale, plus que l'histoire accumulée. Tu as pu être méchant très longuement, si tu te détournes de ta méchanceté pour vivre dans la justice, tu vivras, tu recevras le salut. Au contraire, tu as pu être dans la justice très longtemps, mais si tu renies cette justice pour vivre dans le mal et persévérer dans le mal, eh bien, tu connaîtras la perdition. Tâchons de percevoir les conséquences de cette révélation. La première conséquence est que l'accueil du salut de Dieu dépend de l'état de notre cœur, et non pas d'une moyenne entre la bonté et la malice de nos actes. Le salut de Dieu ne s'accueille pas comme on passerait un examen en disant « ben voilà, j'ai plus de 10, j'ai plus de la moyenne, donc je passe, ça va bien ». Le salut de Dieu s'accueille quand le cœur justement est tourné vers Dieu. Cela a un effet en matière d'espérance. Nous ne devons jamais désespérer de la possibilité de notre salut, quand bien même notre histoire a été marquée longuement, fortement par le péché. Cette parole nous permet de ne jamais nous désespérer en nous disant « Après ce que j'ai fait, il n'y a plus de salut pour moi. Si mon cœur se retourne vers Dieu, le salut est possible, le salut sera reçu. » Entendons la force de la parole. Le méchant qui s'est détourné de sa méchanceté, il a ouvert les yeux, il s'est détourné de ses crimes, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Donc ça vaut le coup de se retourner vers Dieu. Ça vaudra le coup de se retourner vers Dieu. N'en désespérons jamais. La deuxième conséquence, c'est que cela nous garde d'une attitude un peu trouble, où nous nous dirions « Après tout le bien que j'ai fait, je peux bien me permettre cette iniquité et cette malice. » À la manière de l'étudiant qui se dirait « J'ai suffisamment de points d'avance pour me permettre de bâcler mon dernier examen. » Voilà. Même si j'ai zéro à cet examen, j'ai suffisamment de points d'avance pour que ça passe. Et je dirais donc, j'ai été suffisamment ouvert à Dieu et à mon prochain, donc voilà, je peux me permettre maintenant ce vol, ou je peux me permettre cet adultère, je peux me permettre ce mensonge, parce que j'ai suffisamment de points d'avance. C'est donc un appel à la vigilance et à la persévérance dans la justice, à la persévérance du cœur tourné vers Dieu. Je voudrais insister encore sur la phrase « Il sauvera sa vie, il a ouvert les yeux » sur ce « Il a ouvert les yeux ». Ça veut dire que il est revenu de l'idée qui parfois taraude un peu notre cœur, de se nous dire « Mais finalement, le péché est bien attirant, la vie avec un peu de péché a l'air plus savoureuse que la vie de justice ». Que la vie qui serait pleinement conforme à la volonté de Dieu. Il y a cette tentation dans un recoin de notre cœur, tentation qui nous fait dire que la joie véritable, elle comporte une part de péché, que l'alliance avec Dieu a une dimension rabat-joie. cette tentation nous donne envie parfois de nous dire, eh bien, au dernier moment, je me convertirai. Voilà, je essaye, n'y a-t-il pas un moyen de profiter de cette joie du péché, et puis hop, au dernier moment, je me retourne, et du coup, comme ça, je profite du salut. Cette position est une grande illusion, est une grave illusion, parce que ça veut dire en fait que les yeux ne se sont pas ouverts. Les yeux qui s'ouvrent, c'est les yeux qui deviennent capables de dire, comme dans le psaume, Seigneur, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. C'est de découvrir que la façon dont Dieu vit, c'est ça qui nous fait respirer, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous met dans l'émerveillement et la joie. Avoir ouvert les yeux, c'est justement être revenu de cette illusion que le péché est ce qui m'aurait donné la joie véritable, le contentement réel. Il y a cependant une précision à apporter. On a affirmé la possibilité du salut, la possibilité vraiment réelle du salut pour celui qui se détournait de son mal. Cependant, on peut se demander, mais ça veut dire qu'il n'y a aucune conséquence, du mal que l'on a fait ou du bien que l'on a fait, que cela n'a pas de poids dans l'histoire. Si cela a un poids, mais distinguons comment cela s'exerce. Ézéchiel a affirmé que la disposition du cœur était ce qui était déterminant pour le salut. Cependant, la façon dont nous vivons va rendre plus ou moins facile ou plus ou moins difficile le retournement du cœur. Et c'est aussi là que va s'exercer la conséquence de nos actes. Plus j'ai eu l'habitude d'un cœur tourné vers le Seigneur, plus il est simple de rester disposé dans cet état du cœur, en amitié avec Dieu, et plus il est facile de revenir. Au contraire, plus j'ai pris l'habitude d'être loin de Dieu, détourné de Dieu, plus le retournement vers Dieu est compliqué, plus le retournement vers Dieu est improbable. Il y a bien d'un côté l'élan que procure une bonne habitude, une vertu, et de l'autre, au contraire, le frein, l'enchaînement que procure une mauvaise habitude, un vice. Gardons-nous du coup de dire, ah, j'ai péché une fois, je peux recommencer parce que de toute façon tout est perdu. Non, j'ai péché une fois, que j'arrête maintenant, que je me retourne maintenant, que je ne multiplie pas la faute, parce que sinon je contribue à un enchaînement plus grand. Par ailleurs, il y a encore ce qu'on pourrait appeler une conséquence matérielle de nos actes sur le monde. Quand Dieu dit qu'il ne fait pas peser la faute des pères sur les fils, si dans un village les pères brûlent les champs, bah, les fils, on ne va pas les considérer comme coupables d'avoir brûlé le champ, mais ils porteront quand même les conséquences matérielles que les champs qui faisaient vivre le village ont été brûlés. Et donc ils vont goûter à la famine. Ils ne sont pas coupables, les fils, d'avoir brûlé le champ, mais avec tout le village, ils porteront le poids, la conséquence, la douleur de plus avoir de champ pour se nourrir. Voilà, n'oublions pas que même si le coupable se reprend, ses actes ont eu un poids sur l'histoire du monde et sur les circonstances du monde. Au terme de notre enseignement, retenons peut-être trois choses en particulier. La première, l'accueil du salut de Dieu dépend de la disposition de notre cœur, et non pas d'une moyenne entre nos actes bons et nos actes mauvais. La deuxième, que nous ayons cette certitude que si nous nous détournons de nos fautes, le salut nous est offert, le salut nous est tendu. Ne désespérons jamais, ne nous disons jamais, je suis trop loin de Dieu pour être sauvé, il n'y a plus de salut pour moi. La troisième, nos actes ont quand même une conséquence dans l'histoire, une conséquence de vertu, de bonne habitude ou une conséquence de mauvaise habitude, et puis aussi une conséquence matérielle sur la vie des autres. C'est le fameux champ brûlé et la perte des récoltes pour tout le monde. Je vous souhaite de bons échanges.